Premier sujet ce matin, ben, on fait suite évidemment à ce rapport sur les requêtes des employeurs à Montréal. Là. C'est pour le Québec, mais parlons de Montréal, qui, dans une proportion de plus de 60 % demande une connaissance minimale de l'anglais à leurs futurs employés. Lise.
Oui, alors, good morning! Évidemment, c'est un rapport de 74 pages, donc il y a beaucoup de nuances, mais c'est sûr qu'on a un peu sursauté, j'imagine, hier, quand on a appris qu'il y avait quand même une proportion très importante de gens qui demandaient ou souhaitaient que les nouveaux employés connaissent l'anglais. Bon, est-ce que... d'un côté, on est vraiment comme surpris, puis certains très fâchés, et d'autres disent, ben écoute, c'est la vie, on est rendu là, le Québec est un joueur sur la scène internationale, en question du milieu des affaires, on doit avoir des contacts avec avec des gens partout dans le monde, la lingua franca, pour l'instant, que ça nous plaise ou non, c'est l'anglais. Ça sera peut-être le mandarin à un moment donné, mais pour l'instant, c'est l'anglais. Donc, comme on dit en bon chinois, get with the program. Mais avant de partir en peur, puis de se mettre à parler de répression, puis d'interdiction, et c'est toutes ces choses-là qui, de nos jours, fonctionnent de moins en moins, on remarquera que présentement, les gens sont pas très... Comment dirais-je, porter à dire « Ah, j'ai pas le droit, oh, c'est correct, je le ferai pas. » On vit pas vraiment dans ce monde-là. Premièrement, quand des gens font une offre d'emploi, hein, il y a des automatismes sur les formulaires, c'est probablement là depuis toujours, sur connaissance de l'anglais, un atout et ainsi de suite. Faudrait éliminer ça. Ensuite, il y a évidemment des entreprises, disons, canadiennes, pan-canadiennes, peut-être que les formulaires d'offres d'emploi viennent de Toronto, puis eux autres à Toronto, faut que tout le monde parle anglais, donc ils mettent ça sur le formulaire. C'est, autrement dit, il y a tellement de variables possible que de s'engager sur la voie de la répression, à mon avis, serait une erreur. Et surtout quand on regarde dans le rapport qui a 74 pages quand même, à la page 31, on nous apprend ceci qui est très intéressant, c'est que quand les entreprises exigent le français, c'est surtout pour permettre les communications à l'oral à l'intérieur de l'entreprise. Mais quand les entreprises exigent la connaissance de l'anglais, c'est pour permettre les communications orales avec l'extérieur de l'entreprise. Et ça, on peut pas s'en sortir.
Luc.
Ben oui, Lise, je partage au moins une de tes deux affirmations, là, qui est celle que la répression n'y changera rien, mais par contre, celle que, où tu dis, ben, prenons notre gaz égal, respirons par le nez. Moi, c'est drôle, j'entends plutôt la voix du capitaine quand j'ai lu le rapport. C'est le capitaine qui dit d'une voix calme, « Bonjour, mesdames et messieurs, veuillez quitter votre cabine et vous diriger vers les bateaux de sauvetage. Laissez vos effets personnels derrière vous. » Parce que moi, je pense que là, il y a une crise. Et puis, j'ai pas toujours pensé ça parce que j'étais rassuré pendant des années de deux choses. J'étais rassuré de la langue parlée à la maison, qui augmentait beaucoup en faveur du français. 33 % des immigrants qui ne parlaient pas leur langue de première à la maison choisissaient le français, seulement 14 l'anglais. Et ça, c'est grâce à la sélection des immigrants. Pendant des années, on a eu une grosse immigration maghrébine parce qu'on a choisi des gens qui parlaient le français. Là, la prochaine fois que les gens se fâchent en disant « Moi, les Arabes, plus capables », rappelez-vous que c'est eux qui sont en train de sauver la langue à Montréal. Et l'autre chose qui me rassurait, c'était la langue d'usage, parler dans dans l'espace public. Donc, la langue d'usage, à une immense majorité, puis stable en plus, ou en haut de 88 % usage du français dans les magasins, etc. Bon, par contre, quand tu regardes la carte de Montréal, ce que tu vois, quand on met des couleurs là-dessus, là, tu mets la couleur rouge pour anglais, bleu pour français, puis orange pour immigrants. Là, Montréal, c'est rouge et orange. Les banlieues de Montréal sont bleues. Alors, pour le centre de Montréal, là, il est vraiment... il n'est plus minuit moins quart, il est minuit et quart. Mais là où je suis vraiment inquiet, c'est que la langue d'usage n'a pas tant d'importance que ça, parce que... Que la personne te reçoive avec un français, un baragouine, quelques mots de français dans un magasin, ben bon, c'est correct. Tu sais, y a aussi les gens à Genève qui baragouinent des mots d'anglais pour te recevoir dans un magasin. Là, c'est pas ça qui fait une langue forte. Ce qui fait une langue forte, c'est que les immigrants se disent « Oh, moi, je ne peux pas me passer de cette langue-là. » D'abord parce que culturellement, je ne peux pas m'en passer. La musique, les films, la télévision, la vie, etc. Parce que j'ai envie d'aller vers cette langue-là. Et aussi parce que dans mon travail, j'en ai besoin. Et si t'as pas ça, bon, on le sait que la musique, les films, la télévision, ça s'est rapé, c'est terminé. Maintenant, c'est Internet, puis c'est en anglais. Et là, il reste la langue de travail. Et la langue de travail, bon, tu étais rassuré en disant, oui, l'essentiel des demandes des employeurs, c'est pour l'externe qu'on demande l'anglais. Attention, il y en a quand même sur l'île de Montréal, 41% qui exigent l'anglais pour fin de communication à l'interne. Là, je commence à trouver ça inquiétant.
Est-ce que je peux vous donner un exemple?
On dit à l'interne. Excusez-moi.
Non, mais je vais vous donner un exemple, OK? Parce que j'ai fait beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup de réactions hier là-dessus. C'est un auditeur qui m'écrit, qui a travaillé pour une entreprise française basée à Montréal, mais contrôlée en France. Il dit, nous étions trois en réunion, deux Français d'origine, VP, etc. Les deux me parlent en anglais. Et je leur dis, je souligne que je suis francophone et que nous sommes au Québec et qu'on peut très bien donc se parler en français. Et un des deux interlocuteurs français répond, Antwi in America.
Ah ben oui.
Ben c'est ça, la perception est ça. Particulièrement pour les nouveaux arrivants, puis je pense pas que le rapport de l'Office se cristallise autour de la question des immigrants. Je pense que c'est plus large que ça. Mais écoute, c'est pas de la tarte. En Europe, les Anglais ont quitté l'Union européenne. Hein? Bon, ils sont partis. Eh ben, l'anglais demeure une langue officielle de l'Union européenne, et non seulement ça, il y a des organismes pan-européens qui sont basés en France, dont la langue de travail au quotidien est l'anglais.
Oui, parce que...
Parce que c'est la fameuse lingua franca. Je dis pas que c'est bien, mais faut voir à quoi on est confronté globalement, parce qu'on en fait partie. C'est vrai que les migrants qui arrivent ici, d'abord, ils viennent au Canada, dans la grande, grande majeure partie des cas, pays majoritairement anglophone, j'allais dire bilingue. Il vient in America, en Amérique du Nord. Ça, là, pour changer ces perceptions-là, là, on n'est plus... Je suis contente que tu sois d'accord avec moi, Luc, que la répression, c'est peut-être pas la nouvelle... nouvelle meilleure idée là pour régler la question du français. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de promotion, d'encouragement, de toutes sortes de manières qu'il faut. Puis aussi de dire aux employeurs, ben assurez-vous que quand vous demandez l'anglais, c'est pour une raison valable.
OK, alors je pose une question à tous les deux. Est-ce que quelqu'un peut vivre et travailler, là, les deux, vivre et travailler à Montréal s'il ne parle pas un mot de français?
Oui.
Oui, il peut, dans certaines entreprises, c'est clair. Bon, d'abord, s'il habite... Bon, il peut habiter maintenant, il peut habiter n'importe quel quartier, puis il va se faire répondre en anglais s'il parle en anglais. Mais aussi, dans son travail, il va pouvoir, il n'y a pas de problème dans plusieurs entreprises. Plus tu montes près de la direction, plus ça parle anglais. Et quand Lise parlait de la lingua franca, c'est que maintenant, ben, si les rapports sont faits, les rapports sont sur Internet, les échanges se font avec d'autres pays, c'est clair que ça va se faire en anglais. Alors lui, au contraire, il va être favorisé, je pense. Mais... l'inverse, ce serait... L'inverse est très possible aussi. Là. Tu travailles au gouvernement, tu travailles dans l'éducation, tu travailles dans une entreprise québécoise. Tu peux vivre et travailler juste en français. C'est encore tout à fait possible. Les deux sont possibles. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans certains domaines, et parce que les communications avec l'externe, mais avec l'interne aussi, se font de plus en plus en anglais, je pense que c'est une tendance où progressivement, ceux qui parlent uniquement anglais vont trouver plus facilement du travail que ceux qui parlent uniquement français.
On va s'arrêter pour la pause, si vous me permettez. Oui, c'est parce qu'on peut en parler longtemps. Mais on a un autre sujet tout de suite après. Et évidemment, avec ce sondage-là, léger, 8 Québécois sur 10 qui ont une image positive des Premières Nations. Est-ce qu'on connaît vraiment les Premières Nations? C'est le sujet. Et Marc nous dit ce qui se passe sur la 13.